Sortie de boîte. Sortie de boîte, Cédric Adrover.
C'est la rentrée pour Sortie de boîte et c'était peut-être des restes du rythme de l'été, mais j'avais une vingtaine de minutes de retard au rendez-vous avec mon invité pour préparer cette émission. Honte sur moi, mais il est compréhensif, les séances qui se prolongent, il a l'air de connaître. À mon SMS d'excuses, il répond « En vous attendant, je me divertis sur Outlook ». Bon, chacun ses divertissements. Mais le quotidien de mon invité n'est pas que constitué de courriels et de séances. Non, son quotidien, c'est de défendre l'économie d'une région. Rien que ça. Et là, si vous vous faites l'image d'un politicien langue de bois, vous êtes dans l'erreur, il n'est ni l'un ni l'autre. Il dirige la Chambre d'économie publique du Jura bernois et il est franc et direct. Un peu de flotte, il me demande en me tendant une carafe. On discute la santé de l'économie. Oui, on sort d'une période un peu merdique. Mais oui, on appelle un chat dans son bureau. Mais toujours dans le respect, qu'on sent omniprésent lorsqu'il parle de la région, des entreprises et surtout des gens qui les composent. Parce que, et je le cite, l'économie, c'est toujours une histoire humaine. Bonsoir Patrick Linder.
Bonsoir.
Avec vous, on va parler aujourd'hui de la Chambre d'économie publique du Jura bernois que vous dirigez, la CEP, pour les intimes. Avec vous, on va aussi évoquer le fonctionnement de cette chambre, le tissu économique, l'attractivité de la région, ainsi que les défis qui touchent les entreprises. Mais avant ça, un mot sur vous. Vous êtes historien de formation. C'est quoi le chemin qui vous a amené à occuper aujourd'hui les fonctions qui sont les vôtres ?
Ouais, c'est un ensemble de circonstances, de coups de cœur et puis de défis. Relever le début, ma spécialisation, c'est quand même l'histoire économique, l'histoire industrielle, l'histoire des technologies, l'histoire des systèmes de production, l'histoire de l'horlogerie dans laquelle j'ai passablement travaillé. Ça m'a conduit à ensuite œuvrer dans le cadre d'une grande boîte horlogère. J'ai occupé diverses missions et puis dans ce parcours-là, on a l'occasion de constater un certain nombre de choses et puis très naturellement... acquérir un certain nombre de compétences qui permettent d'exercer la mission qui est la mienne aujourd'hui.
Passer d'une grande entreprise horlogère à la Chambre d'économie publique, c'est un grand écart ?
C'est un assez grand écart, au sens où tout d'un coup les perspectives desquelles on doit se préoccuper sont bien plus larges, il y a un spectre plus conséquent, il s'agit de se montrer polyvalent, réactif, et il n'y a pas toute la force organisationnelle qui peut exister par exemple dans un groupe horloger. Alors il y a peut-être moins de détails, moins de tâches réglées précisément, mais beaucoup plus de diversité, c'est ça qui est extrêmement stimulant dans mon quotidien aujourd'hui.
La Chambre d'économie publique est apolitique, vous n'êtes pas politisé, pourtant il y a quand même une certaine dose de politique, mais au sens des relations, d'entretenir ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce poste ? C'est ça, cet aspect relationnel ?
Alors, il faudrait définir ce qu'on entend par politique. J'aime des fois préciser en disant qu'elle est surtout apartisane, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à une formation qui milite dans le débat politique. Par contre, il y a toute une série de débats qu'elle ne peut décemment pas éluder, puisqu'elle est la représentante légitime de l'économie de la région, son cercle de réflexion et également son porteur de projet. Donc, il y a évidemment un certain nombre de questions auxquelles il faut faire face et elles se résolvent également dans un cadre politique.
Mais qu'est-ce qui vous a motivé à accepter ce poste quand on vous l'a proposé ?
Mais j'ai envie de dire le sens du devoir. C'est probablement le premier sentiment qui a vibré chez moi. La nécessité probablement de défendre une région qui est merveilleuse, d'un point de vue économique notamment. Et puis une grande motivation à mettre en avant un certain nombre de compétences qui passent parfois un peu à la trappe. C'est un ensemble de choses qui, cumulées à des trajectoires de carrière et des interrogations personnelles, m'ont conduit à accepter un défi qui m'était proposé.
Et l'histoire, aujourd'hui, elle vous est encore utile ?
Alors, elle est absolument utile, au sens où l'histoire est avant tout une méthode plutôt qu'un ensemble de connaissances. Et cette méthode peut être apportée face à toutes les problématiques auxquelles je suis confronté. C'est une façon d'analyser les choses, c'est une façon d'organiser le monde. Et peut-être... une façon de porter un regard qui est peut-être un peu plus distant ou qui se déroule dans un temps un peu plus long. Donc ça offre beaucoup de liberté et beaucoup d'affranchissement intellectuel face aux missions qu'on nous propose.
Alors parlons de ces missions. Justement, si vous deviez expliquer, parfois c'est un peu obscur, Chambre de commerce, Chambre d'économie publique, quelle est l'activité de la Chambre d'économie publique ? Simplement, vous diriez quoi ?
Oui, il y a déjà une partie visible qui concerne finalement les membres et tous les habitants de notre région, plutôt tous les acteurs de l'économie du Jura bernois au sens large, peut-être même ceux de l'arc jurassien. C'est tout ce qui concerne les événements, la publication d'une revue, on en est au numéro 148 aujourd'hui, qui est très lue, le lectorat, c'est les PME dans l'arc jurassien. C'est la seule publication qui couvre la région et cette thématique. Donc il y a toute une série d'activités, de communication qui touchent directement les membres. Ça, c'est la partie visible. En fond, il y a un travail d'organisation de ce monde économique, un travail de mise en réseau de ces acteurs, et c'est probablement la partie la plus chronophage de mon travail.
Il y a des institutions similaires dans les cantons de Neuchâtel et du Jura, elles se nomment chambres de commerce, vous êtes une chambre d'économie publique, c'est juste cosmétique ou il y a une vraie différence ?
Elles sont plutôt assimilables que similaires. Le mot chambre nous réunit, mais à la différence de mes collègues Jean-Fred Gerber dans le Jura et Florian Desmétiers à Neuchâtel, on ne représente pas un lobby patronal. Donc la Chambre d'économie publique du Jura Bernois, c'est la représentante de l'économie dans toutes ses dimensions. On a des entreprises chez nous, les communes du Jura Bernois, mais aussi des associations et tout ce qui gravite en fait autour de la thématique économique.
D'ailleurs, vous menez actuellement une campagne de communication sous le slogan « Tout un monde » pour défendre l'économie régionale. Alors c'est qui tout ce monde ? Vous avez évoqué les entreprises, des communes ?
Il y a qui d'autre ? Absolument, il y a des associations, il y a des instituts de transfert technologique, il y a des écoles, mais il y a aussi des membres privés. Et ça, c'est extrêmement important à nos yeux, puisque les thématiques qu'on traite, la façon dont on les met en œuvre, concernent finalement chacun. Il n'y a pas besoin d'être le patron de sa propre entreprise pour s'intéresser à l'économie régionale. Un manager dans une grande entreprise, un chef de projet dans une autre peut tout à fait s'intéresser, participer. Et puis c'est un aspect auquel on est extrêmement sensible, cette mécanique de décision, cette façon d'organiser la réflexion, c'est ce rôle de think tank qu'on assume, nous donne finalement une légitimité et je crois donne un certain poids à ce qu'on est capable d'asséner tout au long de l'année.
Vous avez combien de membres ?
Aujourd'hui, on a 800 membres, toutes catégories confondues, et on est absolument convaincus qu'on pourra augmenter ce nombre-là prochainement. C'est ce qui renforce aussi notre légitimité, qui nous permettra de continuer à assumer notre travail pour la région dans son ensemble.
Une autre de vos actions, c'est vous avez acheté des actions dans le parc suisse de l'innovation à Bienne. Qu'est-ce que vous cherchez par ce genre d'action ?
Alors, c'est une institution qui va dont l'importance va se renforcer à l'avenir pour tout le tissu industriel de l'arc jurassien, notamment puisque c'est la seule déclinaison des parcs suisses d'innovation de la stratégie fédérale qui se préoccupe des domaines de spécialisation qui sont les nôtres de la région, grosso modo les microtechniques et les moyens de production microtechniques. Il s'agissait pour nous de pouvoir veiller à ce que la façon dont ce parc est développé, puis les domaines qui seront traités correspondent aux besoins concrets des entreprises et puissent les aider à répondre aux enjeux qu'ils connaissent aujourd'hui, notamment en matière de recherche technologique et d'innovation organisationnelle.
Et bien justement, les entreprises de la région et le tissu économique, on va en parler maintenant. Avant de vous poser quelques questions, Nadia Chmirou est allée, elle, se promener du côté de Reconvilliers. Elle a demandé aux gens qu'elle croisait quel genre d'entreprise pourrait s'installer dans la région.
Sortie de boîte.
Dans le Jura bernois, de ce que je connais, il faut des petites entreprises avec des gens du pays, qui, quand je dis du pays, au niveau de la direction, qui pensent au futur.
Il faut dire qu'on a un village qui n'est pas développé. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui vont se déplacer chez nous.
Si on prend Tavannes et si on prend Malrébé-Villard, les deux villes ont des petites entreprises qui se développent. À Reconvilliers, il n'y a rien. Du terrain pour faire des entreprises, il y a même des entreprises vides, donc il y a des gens qui devraient venir. Mais il faut leur vendre, ça se vend ça. Il faut aller les chercher les gens, ils ne viennent pas tout seuls, ils ne savent pas.
Une entreprise qu'on n'ait pas toutes ces grandes surfaces, avoir une surface au prix équitable et un petit peu plus dans le Natura Farm, arrêter d'avoir des produits comme on entend l'élevage industriel. Alors là, ça c'est important pour nous.
Des petits commerces.
Qu'est-ce qu'a la région qui pourrait plaire aux entreprises ?
Ce qui peut plaire aux entreprises, c'est l'autoroute, hein. L'ouverture de l'autoroute. Ça, au niveau transport, ça facilite tout le monde. Et je pense, moi, personnellement, que ça va attirer des entreprises. Pas forcément Jura-Bernois, peut-être plus au nord aussi, mais je pense que ça va attirer des entreprises. Le domaine d'industrie est tellement vaste, on a beaucoup de décolletage. C'est vrai qu'il faudrait peut-être trouver d'autres industries, mais dans quoi ? Ça, c'est difficile. Il faudrait que quelqu'un invente un nouveau produit, tout style confondu. Mais voilà, il faut trouver le produit.
Sortie de boîte.
De retour dans notre studio de Tavannes avec Patrick Linder, directeur de la Chambre d'économie publique du Jura bernois. On a entendu beaucoup de thèmes dans ce micro-trottoir. Il y en a un qui vous parle particulièrement ?
Probablement l'incapacité à formuler ce qui fait la spécificité de l'économie régionale. Alors, c'est de façon très concentrée le cas pour le Jura bernois, mais c'est la même réalité pour l'arc jurassien. Nous sommes une région industrielle qui s'est développée sous le coup du développement horloger, qui a commandé le déploiement d'un certain nombre de technologies qui avaient pour but de faire passer la production de la montre dans un autre régime de production. C'est ce qui nous a conduit à avoir des entreprises de machines-outils, par exemple, dans la région. Elles utilisent des périphériques, elles utilisent de l'outillage. C'est ce qui a commandé le développement d'autres entreprises. Et puis, il y a des gens qui utilisent ces technologies et qui en font des choses. Et ça, c'est vraiment la description systémique qu'il faut faire de l'économie de notre région pour la comprendre. On ne doit pas la comparer, par exemple, au récent développement des économies tertiaires qu'on trouve, par exemple, dans les grandes villes en Suisse. On s'inscrit dans un autre modèle qui a fait notre force depuis 150 ans et aujourd'hui qui constitue sans doute la meilleure option stratégique pour un développement harmonieux à terme. Sur ce chemin, il y avait évidemment quelques écueils à éviter, il y a encore beaucoup de travail, mais on doit garder, je pense, en tête que nous sommes une région industrielle, ça a fait notre succès et ça fera encore notre succès pendant un moment.
Et il y a la question de l'attractivité qu'on a pu entendre. Est-ce que la région a un déficit d'image aujourd'hui ?
Mais c'est ce qu'on lui affuble souvent. Ce serait malhonnête de ne pas le reconnaître. On peut lier ça peut-être au désamour que l'opinion publique a eu un certain moment pour les activités industrielles. Il y a un moment où cette région bénéficiait d'une aura bien plus importante, quand l'industrie représentait la modernité, quand la montre était le sommet de cette modernité ou le symbole de cette modernité, et puis que notre région s'est mise à engager des gens, d'abord en Suisse allemande, puis au Tessin, au Valais, et finalement dans d'autres pays. On était une espèce de petit centre à la pointe de l'organisation. Le pendule est aujourd'hui un peu dans l'autre sens. On peut espérer un peu une correction le jour où on aura compris la spécificité qui est la nôtre.
Vous, c'est votre rôle aussi de travailler sur ce déficit d'image ?
Alors absolument.
Vous faites quoi
plutôt concrètement ? Plutôt dans la dimension économique. Mmh. Alors on fait un certain nombre de choses. On communique. Et cette communication est extrêmement importante. Parfois, je fais un résumé un peu rapide sur ce qu'est notre région, comme je viens de le faire d'ailleurs maintenant. Mais il faut juste être capable de faire comprendre aux gens ce que nous sommes. Nous ne sommes pas une région périphérique, vaguement agricole, avec deux, trois entreprises datées. Non, on accueille des leaders de technologie de niveau mondial, des entreprises qui sont implantées de longue date dans des marchés, qui sont aujourd'hui plutôt bien positionnés pour négocier de nouveaux sauts de productivité. C'est tous les notions discutées ad nauseam d'industrie 4.0, d'Internet des objets. Donc, on est une région qui se profile vraiment au premier rang de problématiques qui occupent le monde industriel mondial. Et ça, on ne doit jamais l'oublier.
Un mot sur la crise économique qu'on évoque depuis longtemps. Certains parlent d'une reprise. Les exportations horlogères sont reparties à la hausse. Tornos a annoncé retrouver les chiffres noirs. Vous êtes régulièrement au contact avec les entreprises et leurs dirigeants. L'espoir est là, la crise est derrière, vous le sentez ?
Alors, non seulement on le ressent, mais en plus on est capable de documenter, puisqu'on a développé un outil de compréhension des dynamiques conjoncturelles qui se base sur la confiance que nous font nos entreprises membres, puisqu'elles acceptent à intervalles réguliers de répondre à un certain nombre de questions qu'on leur adresse. Ce sondage nous permet de montrer absolument qu'il y a un redressement lent, alors pas aussi chouette que ce qu'on pourrait souhaiter aujourd'hui, mais il y a un redressement qui se met en œuvre. Il touche un certain nombre d'acteurs, mais il n'a encore pas eu le temps de se propager totalement à l'ensemble de ce système interdépendant de production qui est celui qu'on abrite dans l'arc jurassien. Donc il faut encore attendre, je pense, une phase un peu compliquée jusqu'à la fin de l'année, notamment pour certaines PME, celles qui se trouvent tout en amont du processus, mais il y a vraiment une embellie. Et au-delà de nos sondages, il y a un certain nombre de signes qui le montrent. Il y a un regain de demande sur la matière, par exemple, qui sont des signes qui sont tout à fait positifs.
Durant cette crise, mais plutôt même de manière générale, vous avez l'impression qu'elles sont bien défendues, les PME, dans la région ?
Non, c'est sûrement le constat que je tire à titre personnel de cette expérience délicate. Depuis l'abandon de la défense du taux plancher du franc par la BNS, c'était en 2015, plutôt l'impression que les problèmes concrets auxquels les entreprises, mais notamment les petites, ce qu'on appelle les PME, sont confrontées, ne sont pas comprises. Pas comprises des analystes, pas comprises des commentateurs, mais surtout pas comprises forces qui devraient normalement les défendre dans les différents cadres, que ce soit à l'échelon cantonal ou à l'échelon fédéral, et notamment la classe politique qui laisse bien trop souvent des considérations idéologiques ou conceptuelles prendre le pas sur la réalité de ce qui est demandé ou ce qui devrait être fait.
C'est pas faute d'en parler, pourtant à chaque campagne électorale, les questions économiques, elles reviennent beaucoup. Ce sera certainement le cas aussi au printemps prochain. Ce sont des paroles ?
Non, mais on pourrait postuler que quand n'importe quelle question, quand elle est abordée par une perspective sophiste, ne peut aboutir qu'à des demi-réponses ou à des réponses trop idéologiques. Et c'est, je crois, la crainte qu'on a aujourd'hui. Et la période qui nous a menés jusqu'ici, qui nous a conduits à rencontrer un certain nombre d'acteurs, à mener un certain nombre d'actions, accrédite cette approche-là, puisqu'il y a vraiment un manque de compréhension des défis concrets auxquels sont confrontées les entreprises.
Et ça, quel que soit le parti politique ?
Quel que soit le parti politique, ce n'est pas une question de parti, c'est plutôt une question d'analyse et de compréhension des processus.
Si on s'éloigne de l'idéologie, une mesure concrète, alors vraiment très concrète, qui pourrait être prise pour favoriser les entreprises de la région, ce serait quoi pour vous ?
Alors, on a beaucoup travaillé dans la période qui venait sur quelque chose qui nous semblait empreint d'un bon sens terrien auquel on aime se rattacher parfois, dans le cadre du chômage partiel. Donc, c'est ces outils de soutien qui permettent aux entreprises de toucher une allocation par l'assurance chômage quand la période est difficile, typiquement celle qu'on a vécue. Eh bien, on s'est rendu compte que les entreprises, quand elles ont plus de trésorerie, quand elles ont plus d'argent à disposition, elles doivent se résoudre à envoyer des employés à la maison, y compris les maîtres d'apprentissage. Ce qui est catastrophique, puisque ça a un impact délétère sur la formation des jeunes. On a simplement essayé de faire que le salaire de ces maîtres d'apprentissage soit pris en charge par le chômage partiel et permettre de soutenir cette formation professionnelle. C'est extrêmement difficile à faire entendre aujourd'hui. Ça devrait passer théoriquement par une modification de la loi sur l'assurance chômage. S'il y a un vrai consensus dans les partis politiques pour entendre des propositions pragmatiques de ce type, il semble qu'au niveau du SECO et de son grand patron, Schneider Hamann Johann de son prénom, il y a une vraie opposition, mais de nouveau idéologique, parce que c'est une intervention de l'État dans l'économie. Alors ça, c'est une vraie mesure concrète, et un exemple de dossier sur lesquels on travaille, parce que ça touche directement les gens, non seulement les entreprises, mais également les employés et les jeunes qui sont formés dans leur sein.
Nous avons parlé d'horlogerie beaucoup. Dans Sortie de boîte, chaque semaine, on a une chronique horlogère. La santé de l'économie dépend de l'horlogerie. On y voit la croissance économique liée, mais il y a aussi la croissance démographique qui peut être liée à l'horlogerie. Oui, oui, oui. Cette semaine, notre chronique est accompagnée du logo rouge.
Pile à l'heure. Attention, attention, pour sa rentrée, pile à l'heure, a sorti le carré blanc. Cette chronique est interdite aux moins de 16 ans. Pourquoi ? Parce qu'il est question de sexe.
Alors Alexandre, ton nouveau mot, c'est quoi ? Bit, nichon, couille.
Nous parlons d'un type de montre bien particulier, des montres coquines, polissonnes, libertines. Le musée d'horlogerie du Château des Monts au Locle y avait consacré une exposition il y a 10 ans déjà. Ces montres sont nées à la fin du XVIIe siècle, quand la technique a permis de donner vie à des automates. Le principe est simple, la plupart du temps, on voit sur la montre une scène anodine, une scène de la vie quotidienne. Une servante qui prend de l'eau à une fontaine, une nourrice qui tricote alors qu'un enfant joue à ses pieds. Et quand on actionne le mécanisme, une autre partie du décor se révèle, ou alors les personnages entrent en action. Dans le premier exemple, le patron de la servante qui est juste derrière elle se révèle être très très en forme et on le voit faire des va-et-vient alors que la servante jupe relevée est penchée sur la fontaine.
Tu sais que tu m'excites comme une folle espèce de cochon.
Dans le deuxième exemple, le rideau qui était précédemment tendu derrière la nourrice et l'enfant est relevé et on découvre les ébats d'un couple. À l'époque, ces montres étaient fabriquées principalement en Angleterre, en France ou à Genève. Comme elles mettaient souvent en scène des prêtres, des moines et des nonnes, elles ont été interdites à la fabrication à Genève en 1817. Beaucoup ont même été détruites. Ces objets d'époque sont donc assez rares à présent. Mais plusieurs marques les ont remis au goût du jour. Perlet, Ulysse Nardin, Blancpain, Chopard, entre autres. L'horloger danois Sven Andersen est sans doute le plus grand spécialiste de montres coquines contemporaines. Il en a par exemple
exemple, réaliser une à l'effigie de l'ancien président américain Bill Clinton et sa stagiaire d'alors Monica Lewinsky.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Pile à l'heure.
Une chronique que vous retrouvez sur notre site internet avec un exemple de montre Polisson. Vous verrez, c'est très soft. Patrick Linder, sur votre montre, il n'y a pas de visuel ?
Non, c'est une montre 3 aiguilles. Elle est merveilleuse parce qu'elle traduit la transition entre la montre de poche et la montre bracelet qui était une période déterminante pour notre région.
Et on retrouve l'historien chez vous. Avec vous, on parle d'histoire un peu, mais surtout de la Chambre d'économie publique du Jura-Bernois que vous dirigez. La région, elle a été beaucoup médiatisée ces derniers temps, hein, notamment suite au vote de Moutier. Le départ de Moutier pour le canton du Jura, ça va changer quoi pour l'économie du Jura-Bernois ?
Mais finalement, pas grand-chose, avant nous, l'impression. C'est ce qu'on a dit avant et on le dit encore après. J'ai suffisamment eu l'occasion de dire que l'économie du Jura-Bernois, avec ses spécificités, intègre un plus grand ensemble qui est, d'un point de vue structurel, homogène. C'est celui de l'arc jurassien avec bien. Et le fait de bouger des frontières institutionnelles dans cet espace industriel change finalement peu les choses d'un point de vue économique, encore moins d'un point de vue industriel, puisque les frontières institutionnelles n'ont jamais été une entrave pour le bon fonctionnement de notre industrie, en tout cas au niveau fédéral.
Il y a quand même l'impression que Moutier jouait un rôle de pôle. Est-ce que ça devrait être remplacé, par exemple, par BN ? Je ne sais pas. C'est une possibilité ?
Alors, c'est un certain nombre d'interrogations qui vont se poser clairement pour la région aujourd'hui. On peut postuler, sans participer au débat politique, que le départ d'une agglomération avec de l'importance de Moutier va engendrer une reconfiguration des forces, un rééquilibrage, et puis il y a plusieurs possibilités. Dans tout ceci, il y a probablement un certain nombre de chances à saisir pour le Jura-Bernois, avec des relations à créer, des relations à maintenir, des relations à vivifier, en direction du Jura, en direction de Neuchâtel, mais aussi en direction de Bienne, qui est, je crois, la 11e agglomération de Suisse, et donc l'établissement de liens intelligents avec cette ville paraît faire sens.
C'est vrai que vous avez des relations avec les autres cantons de l'arc jurassien, Neuchâtel, le canton du Jura, en tant que francophone aussi au niveau roman en général, mais évidemment aussi avec le canton de Berne. Comment vous gérez toutes ces relations, tous ces intervenants ?
Mais finalement, d'une façon aussi spontanée que pragmatique, la nature des enjeux conditionne en fait leur inscription à différents plans. Il y a un espace institutionnel qui est celui du canton de Berne dans lequel on fonctionne, qui règle un certain nombre de choses. Il y a un espace industriel dans lequel on interagit, inclut une partie du canton de Berne, mais aussi l'arc jurassien. Étant d'expression francophone, il nous paraît tout à fait naturel de partager des considérations avec nos collègues romands, avec lesquels on a aussi d'excellentes collaborations. En dernier lieu, nous défendrons aussi une industrie suisse qui dépend de conditions au cadre fixé à l'échelle fédérale, puisque nous n'avons pas de politique industrielle en Suisse. Et en dernier lieu, il y a une série de propositions qu'on peut aussi faire à l'échelle fédérale. On s'en est d'ailleurs pas privé dans l'année qui vient de s'écouler.
Donc il n'y a pas de priorité entre les différents intervenants ?
Non, il n'y a pas de priorité. Il y a simplement la reconnaissance d'une inscription à plusieurs niveaux de nos activités.
Comme vous, notre émission travaille sur plusieurs cantons et on vous remercie d'avoir été notre invité pour la rentrée de Sortie de boîte. Bonne soirée, Patrick Linder.
Merci, à vous aussi.
Une émission que vous retrouverez sur notre site internet dans le courant de la soirée. Jeudi prochain, direction Neuchâtel avec un entrepreneur de 30 ans qui a déjà plusieurs casquettes. C'est Data Diaman a créé une société de conseil, ouvert un espace de coworking à Neuchâtel et écrit un livre sur l'innovation collaborative. Les thèmes ne vont donc pas manquer. À la semaine prochaine.
Sortie de boîte.